Bienvenue à cette édition de la vie en BD. Raymond Poirier au micro, avec vous au fil de la prochaine heure pour parler 9e art. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver. Et cette semaine, on aura deux invités qui se succéderont au micro. En deuxième moitié d'émission, ce sera Stéphane Gravel qui sera de passage pour parler de son mois en BD. Il nous amènera essentiellement sur trois albums qui l'ont marqué dans ses lectures de février. Alors, ce sera des belles suggestions également de votre côté, il va sans dire. Et pour la première partie de l'émission, on va plonger au fil d'une demi-heure de discussion vers l'album Symptômes de Catherine Oslo. On avait envie de vous en parler, donc de cet album qui, avec bienveillance et douceur, aborde des thématiques importantes autour de la solitude, autour de l'impact de notre milieu sur notre santé. Et bref, plein de belles portes ouvertes à des réflexions comme lecteur et comme intervieweur aussi, je crois. Alors, j'avais envie d'en jaser avec elle et c'est ce qu'on va faire à l'instant ici à La Vie en BD. On plonge maintenant dans l'univers de Symptômes, la toute nouvelle bande dessinée de Catherine Oslo. Donc, il nous arrive un peu, j'ai envie de dire, dans la suite de La Vie d'artiste, dans la suite de Talk Show, dans la suite de ces BD qui sont porteuses de réflexions diverses autour du monde qui nous entoure, de notre relation avec ce monde-là. Et dans le cas de Symptômes, on ouvre la porte vers la santé, vers la solitude également. À travers tout ça. Et pour en jaser, on est avec l'autrice Catherine Oslo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, peut-être commençons par le début, faisons un peu la genèse de Symptômes, parce que de ce que j'en ai compris, au départ, on était dans l'idée qu'on allait faire un récit sur l'amitié, et là, tranquillement, c'est devenu un récit peut-être un peu plus sur la solitude, d'une certaine façon.
Oui, j'avais commencé avec l'intention, j'avais commencé le travail avec l'intention de parler des relations d'amitié. J'avais plein de questions là-dessus, j'y réfléchissais beaucoup. Et puis, moi, en tout cas, comment je fonctionne? Pour le travail artistique, c'est difficile d'y aller rationnellement. Puis, j'ai une démarche qui fait beaucoup plus appel à, tu sais, quand on travaille un peu comme avec des images, avec un aspect un peu poétique là, qui est quand même présent dans mon travail, tu sais, c'est difficile de dire, OK, je pars avec l'intention d'explorer ça et de tenir le sujet tout le long, tu sais. Pour tous mes livres, le résultat du faire toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'intention de départ. Donc, j'avais commencé avec l'amitié. Après, je m'étais rendu compte que je parlais de solitude. Puis, au fil du travail, je me suis rendu compte que je parlais du corps, de notre rapport au corps, de notre rapport à notre inconscient, parce qu'il y a un aspect sur les rêves qui me revient à l'esprit. Tout ça en lien avec les relations. Ouais.
Et tout ça en lien avec, je trouve, beaucoup de questionnements et je faisais le pont dans l'introduction avec La Vie d'artiste puis avec Talk Show parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui menait ces albums-là, des réflexions autour de la vie, de l'existence, du doute, de l'impact du regard des autres sur soi, sur son parcours, sur son choix. Symptômes s'inscrit un peu dans cette suite-là, évidemment, amène d'autres questions, d'autres réflexions, mais il y a une suite logique, j'ai l'impression, d'un album à l'autre aussi.
Ben oui, je suis toujours un peu curieuse de voir comment on peut se transformer au contact des autres. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes changent, d'autres pas du tout? Qu'est-ce qui fait que les choses peuvent être flexibles, fluides? Tu sais, dans Talk Show, je parlais, je pense, du travail quand même aussi. Tu sais, il y avait l'intervieweur qui s'interrogeait, qui était en crise existentielle, s'interrogeait beaucoup sur son propre travail, son approche, mais l'approche des autres aussi. Il y avait des gens qui changeaient de parcours, qui se questionnaient sur leur travail et tout. Puis moi, je me demandais comment ton entourage peut influencer sur ta trajectoire, tu sais. Et puis, j'ai approfondi cette question-là dans La Vie d'artiste. Et puis là, je me questionne sur comment ton entourage peut avoir un impact sur ta santé à quelque part.
Oui, puis de voir en fait un peu au fil des relations, un peu comme on voyait dans les autres, des relations qui nous inspirent, qui nous poussent à aller plus loin d'un point de vue professionnel, d'un point de vue artistique, d'un point de vue créatif. Mais c'est dire aussi, mais dans le fond, les gens qui sont autour de nous, il y en a qui peuvent nous élever, il y en a qui peuvent nous miner aussi. Mais justement, comme tu dis, sur le plan de la santé, je trouve que c'est une ouverture intéressante parce que ça nous fait réaliser à quel point on est un être relationnel lui-même, puis à quel point, mais dans le fond, les relations qu'on entretient avec les autres viennent influer sur ce qu'on est, mais au-delà simplement justement du parcours relationnel ou personnel, mais justement sur l'angle santé, est-ce que ça s'imposait naturellement au cours de la réflexion, justement, c'est cet aspect-là, cette ouverture-là?
Oui, ça s'imposait vraiment naturellement. Une fois que j'ai compris que je faisais quelque chose qui avait rapport à la santé puis au corps, ça m'a permis de mieux le développer, là, de le faire un peu plus, je veux dire, habilement, là, pas à mon insu, là, mais tu sais, il y a des questions aussi qui sont auxquelles je commençais à toucher dans mes autres livres que Symptômes m'a permis d'approfondir. C'est un peu la limite entre l'intérieur puis l'extérieur. Tu sais, à un moment donné, dans Symptômes, il y a l'histoire d'Esther, tu sais, qui est très, très perméable aux histoires des autres et puis qui n'arrive pas à les digérer, puis qui se retrouve à vomir, puis à perdre plein de poids. C'est tout le poids qu'elle trimballe des histoires des autres. Tu sais. Cet aspect-là, justement, tu sais, quand on se demande comment les autres nous touchent ou entrent en contact avec nous, et, tu sais, où est-ce qu'on met les barrières, où est-ce qu'on met les limites, puis qu'est-ce qui est bien, puis quels sont les aspects un peu moins... moins heureux parfois là, de ce contact-là. Je ne me rappelle plus quelle était la question. Je m'excuse.
Je pense que je te demande des réflexions, sincèrement. Là-dessus, parce que c'est ça que ça m'inspire beaucoup, aux Symptômes, en fait, parce que je pense qu'on va mettre les cartes sur table d'entrée de jeu. Là. Pour moi, c'est un album qui ouvre à une réflexion. En fait, on suit un peu, et j'étais tombé sur la formule que je trouvais très juste, le spectacle d'une pensée qui se forme. Et nécessairement, mais dans le fond, cette pensée-là qui est la tienne, que tu tisses au fil de Symptômes, bien nécessairement, nous comme lecteurs, on se l'approprie. Et c'est le genre d'album qui fait qu'après ça, on se questionne sur justement les éléments relationnels, sur les éléments de la santé, sur le tout, dans le fond, que tout ça finit par former. Pour moi, c'est une lecture très active, nécessairement, parce que tu viens nous interpeller un peu à travers ça.
Ben, tant mieux, c'est un beau compliment si ça suscite chez toi une réflexion. Moi, je trouve ça super. C'était pas évidemment, c'était pas mon intention là, de faire réfléchir les gens. Là. Je voulais juste faire raconter les histoires qui m'apparaissaient au fil du travail. Là, mais oui, moi, tu sais, ma fille a 13 ans, tu sais, puis donc comme mère, comme parent, tu sais, j'ai dû la guider, mais je dois encore la guider pour ses amitiés, ses relations, tu sais, puis ça m'a beaucoup fait réfléchir, ça aussi, hein, tu sais, de qui tu t'entoures, qui est autour de toi, tu sais, des fois, je sais pas, tu passes une soirée avec des gens, tu travailles le lendemain, tu sais, t'es un peu comme maganée. Je ne sais pas trop pourquoi. Puis d'autres fois, tu peux dormir genre 4 heures, mais te lever, puis avoir une super grande vitalité, tu sais. Mais ça, c'est chimique, là. C'est l'effet soit d'hormones stressantes. J'avais lu un article là-dessus. Moi, je me demande si ce n'était pas ça le point de départ de ce livre-là. Un article que j'ai lu il y a peut-être 15 ans de ça, qui documentait, je n'ai parlé à quelques reprises, qui documentait les effets sur le corps d'une soirée dans laquelle les interactions sont plutôt négatives, tu sais, pas genre super toxiques, là, facilement identifiables, mais tu sais, des soirées où tu sais, il y a quelqu'un qui se fait l'avocat du diable ou quelqu'un qui est comme, qui a une mauvaise journée puis qui laisse aller un peu sa colère par en dessous, puis là, le lendemain, tu es dans ta douche puis tu continues de t'engueuler ou de t'obstiner puis tu te ramasses dans des conflits qui ont comme pas rapport, tu sais, puis tu traînes ça toute ta semaine, en fait. Et l'article documentait que tu as le cortisol qui perdure pendant plusieurs jours dans ton système, puis plein d'autres hormones aussi comme ça. Et je me disais, mon Dieu, tu sais, si tu as des soupers désagréables comme ça toutes les semaines, c'est quel effet ça peut avoir sur ton système immunitaire. Tu sais, c'est bête, là, mais pas tant en même temps. Tu sais. Et donc, c'est pas l'idée d'éviter des discussions qui sont difficiles, là, évidemment. Là, ça, c'est normal, ça fait partie de la vie. Mais en tout cas, je ne sais pas comment on interagit avec tout ce qui nous entoure, avec les œuvres d'art, avec tout ça. Moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de merveilleux que j'aime regarder là-dedans.
Oui, parfait. Ben, c'est l'idée, puis ça revient un peu, santé durable, santé globale, etc. Il y a plein de façons de l'appeler, mais dans l'idée, dans le fond, que l'humain comme tel est influencé par tout ce qui l'entoure, et c'est ce que ça va définir au bout du compte dans sa santé. Donc oui, il y a le symptôme physique, il y a la maladie, il y a la maladie mentale à laquelle on ouvre la porte de plus en plus au fil des années, mais c'est d'extrapoler un peu sur le vivant qui nous entoure. Puis c'est ce que tu fais un peu dans Symptômes, donc tu l'as mentionné sur les interrelations, mais il y a les plantes aussi, par exemple, il y a le vivant au bout du compte. Donc vraiment, d'élargir un peu, puis j'imagine aussi, puis c'est une autre porte que j'ai l'impression que tu ouvres un peu dans Symptômes, d'élargir même la pathologie médicale aussi, de dire, on a tendance à se limiter à une perspective, on aborde sous l'angle de la santé mentale, sous l'angle de la santé physique, de tels symptômes physiques qui amènent à telle réaction, mais des fois, il faut prendre un pas de recul puis voir l'être humain dans sa globalité pour comprendre aussi les influences, au bout du compte, de ces différents symptômes-là, de ces différents éléments-là, et quel impact ils vont avoir sur la santé, au bout du compte, de l'individu, puis sur son bien-être, sur son mal-être, etc.
Ben oui, c'est toujours tellement complexe, toutes ces questions-là, tu sais. Et puis, des fois, tu peux avoir une maladie, puis ça, moi, je ne vais pas du tout dans le discours où, ton cancer, c'est parce que tu n'as pas réglé ta séparation ou des choses comme ça. Là, je pense que c'est plus compliqué que ça, évidemment. Puis, je n'adhère pas du tout à, tu sais, des certains courants là, qui responsabilisent beaucoup les gens. C'est quasiment de leur faute s'ils tombent malades. Là. Je ne vais pas là-dedans, mais ça peut être intéressant, tu sais, juste pour l'histoire qu'on se bâtit nous-mêmes, notre récit personnel, tu sais, de voir des fois l'aspect métaphorique de certains symptômes ou de remarquer, juste de porter attention à un peu ce qui se passe, tu sais, je sais pas, quand tu fais l'effort le matin de te rappeler de ton rêve, tu sais, c'est juste prendre ce temps-là mais tu sais, j'ai l'impression que c'est beaucoup peut-être aussi un livre, sur l'écoute, tu sais, peut-être plus que les symptômes, juste l'écoute, comment on fait pour écouter les autres, et puis c'est un noyau assez central, je pense, dans le livre.
Là. Oui, ben, en fait, si on fait le saut justement vers cet aspect-là, puis qui nous amène aussi vers le côté narratif de l'ouvrage, dans le fond, au départ, on a donc 5 femmes, Esther, Mireille, Jade, Geneviève, Catherine, qui est un peu ton avatar à travers... C'est ce qui nous amène un peu aussi vers l'autofiction, on en reparlera. Et c'est donc un récit choral où ces 5 femmes-là, dans un groupe solitude anonyme, donc s'écoutent, entrent en contact, puis tu nous dresses un peu, tu parlais d'Esther, je pense, tout à l'heure, donc qui vomissait en réaction à différents éléments, donc c'est une de ce groupe-là. Donc, tu as choisi de l'aborder un peu, ces questionnements-là, à travers justement cette chorale, ce groupe de femmes-là, et leur écoute mutuelle, dans le fond, leur découverte mutuelle de leurs différents défis, dans le fond, en jeu.
Oui, c'est ça. On peut imaginer que les femmes se sont retrouvées là. Il y a Mireille, un des personnages principaux que tu nommais, qui s'est retrouvée là, a été référée par son médecin, qui lui a dit de fréquenter ce groupe-là. Et comme ça arrive, comme j'ai déjà vu, hein, des médecins qui prescrivent les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, des groupes comme ça, tu sais, ça peut faire partie d'une prescription. Et puis, les autres, tu sais, on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés là. Peut-être c'est aussi des prescriptions, peut-être c'est de leur propre chef, on ne sait pas trop. Et puis... Oui, on les voit entrer en contact chacune avec une partie d'elle-même. Puis c'est difficile d'entrer en contact avec soi s'il y a personne qui t'a jamais montré à le faire. Tu peux être un peu... Et donc, à ce moment-là, être au contact de d'autres personnes qui sont en train de le faire, ça peut un peu te paver la voie pour le faire. Que je trouvais que c'était un bel endroit pour les faire se rencontrer.
Et puis, en fait, tu parlais d'écoute tantôt, mais dans le fond, c'est un peu une forme de thérapie sur l'écoute, de thérapie axée sur l'écoute,
ouais, sur le partage. Oui, c'est une forme de thérapie, oui. Ouais. En même temps, c'est un beau prétexte pour après entrer dans l'univers de chacune. T'sais.
Exact. Puis ça, c'est venu. On parlait un peu de création instinctive. Est-ce que rapidement, dans le fond, cette piste-là, l'idée du groupe de ces femmes-là s'est imposée pour aborder justement différentes perspectives? C'est quelque chose qui est venu naturellement ou assez rapidement ou plus en cours de développement où ça a fini par émerger?
Ben, tu sais, moi, comment je travaille, c'est vraiment des morceaux qui émergent petit peu par petit peu, là, différentes pièces là, qui m'apparaissent, que je commence à dessiner. Puis là, à un moment donné, hein, je comprends que tel truc, ça pourrait être un groupe de soutien. Puis tel autre personnage, ben, qui est là, qui est en train de flotter toute seule dans son histoire, mais elle pourrait venir elle aussi dans le groupe, puis ça pourrait être le prétexte pour la. Fait que c'est tout se tisse un peu au fur et à mesure du travail, tu sais. Ouais.
Donc, en fait, il y a des morceaux un peu éparses, des fois, qui viennent d'une réflexion, d'une idée. Et j'imagine que le défi, à un certain point, doit être aussi de réussir à les agencer, puis à bien les agencer pour que ça fasse sens aussi, en réaction les uns aux autres, de tous ces éléments-là.
Oui, ben c'est ça, c'est le travail beaucoup avec Luc aussi, mais c'est-à-dire qui est l'éditeur de Pow-Pow. C'est le moment où, ben, en fait, à partir du moment où j'ai compris le livre que j'étais en train de faire, c'est-à-dire que je parlais de symptômes, comme on disait tout à l'heure, quand j'ai compris que j'étais en train de parler un peu du corps et tout, là, quand j'ai compris les grandes lignes puis les thèmes principaux, ben là, je suis arrivée à tout mieux placer les morceaux puis pouvoir bien les développer. Oui.
Parce que dans le fond, ils tirent un peu leur force les uns à travers les autres, c'est dans leur interrelation. Donc, un peu, on sent la suite logique dans la mesure où si tu démontres que l'individu tire une partie de sa force des relations avec le vivant qui l'entoure, ben, nécessairement dans ton livre aussi, cette interrelation entre les épisodes, entre ces différents éléments ressort, puis ce qui donne une force supplémentaire dans le fond au propos puis aux réflexions que tu mets de l'avant dans Symptômes.
Ben, écoute, je l'espère.
Et parlons justement, peut-être revenons sur les aspects relationnels, puisqu'on est un peu dedans. J'imagine qu'il y a un défi à un moment donné aussi d'illustrer ces éléments-là. Donc, on parle d'un concept qui est quand même relativement abstrait sur les liens qu'on a avec ce qui nous entoure. Ben, de le rendre concret, tu as choisi d'amener justement l'idée de lignes de fil, dans le fond, qui sont rattachées aux autres. Qui sont soit linéaires, sympathiques, d'autres fois qui sont toutes entremêlées, qu'il faut adresser. Donc, j'imagine que quand on trouve une idée comme celle-là, mais d'autant que ça devient quand même une idée assez centrale, à l'allégorie, aux allégories de symptômes. Donc, j'imagine qu'encore là, ça doit être un déclic important, dans la mise en place, dans le fond, de cet ouvrage-là.
Mais ça, l'idée, pas l'idée, mais l'histoire à laquelle tu fais référence, dans laquelle je dis qu'on est tous reliés par des fils invisibles, hein, puis dans l'histoire, comment je les illustrais, c'est ça, c'est des fils de couleurs et tout. Ça, c'est une histoire que j'avais publiée dans le journal La Presse. C'est pendant une période de temps, je publiais une bande dessinée par mois dans le journal. Et c'est une histoire qui m'était apparue à un moment donné, que j'avais dessinée et je leur avais proposé. Ils l'avaient publiée dans la presse. Puis c'est une histoire que j'aimais bien. Puis j'avais envie de la redessiner. J'ai bien regardé. Il y a peut-être une ou deux autres histoires aussi que j'avais déjà pré-publiées dans la presse qui ont fait leur chemin dans Symptômes. Et donc, c'est ça, j'étais super contente en fait qu'elle trouve sa place, ça avait beaucoup de sens. C'est comme si ma réflexion pour le livre avait déjà été amorcée, là. C'est vraiment la convergence de plein de fils, justement, de travail que j'avais commencé pendant les mois avant. Ben oui.
J'imagine que c'est un peu l'avantage justement qu'on parlait d'approche un peu instinctive, ben, d'aller un peu de se laisser, de laisser tisser l'ouvrage pour rester dans la comparaison boiteuse, mais dans le fond, de se laisser influencer un peu par ces éléments-là au fil d'une réflexion qui se construit sur le long terme, dans le fond. Ça semble être des questionnements puis des réflexions qui t'habitent toi personnellement puis auxquelles tu réfléchis de façon réelle, dans le fond, au fil des créations puis au fil de l'existence ou.
Ben oui, c'est vraiment des questions qui m'habitent beaucoup. Puis, tu sais, la question de la santé puis de la maladie, comme tout le monde, j'ai été confrontée à ça. Tu sais, il y a de la maladie dans ma famille, comme il y en a dans toutes les familles. Tu sais, au début du livre, je fais une toute petite référence au fait que je me suis fait opérer d'urgence à un moment donné, puis que les médecins, tout ça avait été pris par surprise par un gros kyste que j'avais dans le ventre, mais qui était assez gigantesque même là, et surprenant. Tu sais, ça m'a aussi, je pense, laissé avec une grande énigme de « mais qu'est-ce que j'ai eu là? Pourquoi moi j'ai développé ça à 20 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? » Puis en même temps, l'impression de l'avoir échappé belle à quelque part, parce que ça aurait pu se transformer ou mal virer, cette histoire-là. Et puis, c'est ça, qu'est-ce que la maladie peut faire. Tu sais, des fois, quand tu as un proche qui est atteint par une maladie, des fois, s'il y a des maladies physiques ou neurologiques qui peuvent transformer la personnalité, tu sais, puis qu'est-ce qui reste de la personne que tu aimes ou tu sais, comment tu fais pour t'adapter, puis toutes ces questions-là, j'ai quand même beaucoup dealé avec la maladie autour de moi là, dans les 20 dernières années, là, je dirais. Donc, forcément, j'ai beaucoup réfléchi. Donc, ça avait juste du sens que ça remonte dans mon travail, tu sais.
Et puis, j'imagine qu'en en partie, parce qu'on parlait d'autofiction tantôt, donc évidemment, la Catherine qu'on trouve dans l'album, c'est pas la Catherine à qui je parle, c'est un prête-nom, si on peut dire, mais dans lequel, autant pour Catherine que pour d'autres éléments du livre, ben, il y a des éléments qui sont basés sur la réalité. Donc, le kiss dont tu parles, il y a d'autres éléments qui percolent. Et finalement, tu en viens aussi à révéler des éléments de toi qui sont importants pour notre compréhension de ta réflexion, mais qui, j'imagine, doivent être complexes des fois à laisser aller, à dire, bon, OK, ça, je vais le dire, ça, je vais me révéler comme ça, ou amener le lecteur, dans le fond, sur tel aspect qui est quand même plus intime, dans le fond, et sur des plans que tu n'as pas nécessairement touché dans Symptômes, dans Talk Show, où on était aussi dans la réflexion, mais peut-être pas avec ce type de détails-là ou d'éléments-là.
Oui, ben c'est sûr que c'est toujours des questions délicates, là. Je trouve ça le fun. C'est un côté qui me fait que je trouve vraiment le fun de mettre en scène puis de jouer avec cette dimension-là du réel et de la fiction. Mais d'un autre côté, on se demande toujours un peu ce qu'on révèle puis comment on le fait. Puis tu sais, tu te demandes aussi qu'est-ce que ça implique ou qu'est-ce que ça peut impliquer pour l'entourage, par exemple pour ma fille. Fait que c'est des questions qui sont parfois délicates, là, mais...
Qu'est-ce qui fait faire le pas de se dire, ben, finalement, on se rend compte que d'un point de vue récit, c'est important, ou d'un point de vue personnel, on se dit, ben, c'est pas la fin du monde, ou OK, je me lance, ou...
Ben, c'est vraiment juste la zone de confort, je pense. J'étais correcte avec le fait de mentionner, mais c'est vraiment juste mentionner que j'ai eu une malchance début vingtaine. T'sais. Mais c'est ça. Je veux pas... c'est parce que je veux pas que ça vienne parasiter non plus ce que j'ai envie de dire. C'est correct que je me mette en scène puis que je sois un personnage, mais je veux pas non plus voler la vedette de mon livre puis en faire comme, je sais pas. Il faut que ça reste pertinent, là.
Exact. Il faut que ça serve, en fait, la compréhension quand tu parles justement de ta relation avec la maladie, d'un côté un peu, hypochondriaque à la limite aussi, mais il faut comprendre d'où ça vient puis les racines de cette réflexion-là pour après ça comprendre le fil de ce que tu nous présentes dans la suite des choses.
Oui, ben oui, parce que sinon, ça reste juste une blague que je suis hypochondriaque, mais je pense que si on sent que, de toute façon, tous les hypochondriaques ont, j'imagine, ont des petites tragédies derrière ou ont eu des frousses ou côtoient des maladies graves aussi, là, tu sais, on n'est pas hypochondriaque pour rien, là, mais oui.
Puis en même temps, à travers les réflexions, tu sais, j'avais lu à quelque part que tu avais étudié aussi en art-thérapie. Donc, j'imagine qu'encore là, ça, c'est d'autres éléments qui viennent alimenter. Quand on parlait sur la durée des réflexions dans ton parcours personnel, mais c'est d'autres éléments qui, j'imagine, viennent influer la façon par laquelle tu vas choisir d'aborder ces réflexions-là puis ces thématiques-là.
Ben oui, quand j'étais en art-thérapie, j'ai travaillé dans une... à l'aile psychiatrique du Royal Victoria à l'époque. Je pense que l'hôpital a été démantelé, peut-être, je ne sais pas. Mais et j'ai travaillé aussi dans une clinique de désintox. Donc, ça a été une autre façon aussi de côtoyer la maladie et ça a été un autre aspect en faisant de l'art thérapie, souvent les gens parlaient en thérapie, mais souvent ils dessinaient aussi, là, c'est un peu ça l'idée. Et donc il y avait encore tout l'aspect parfois métaphorique de leurs problèmes qui ressortait beaucoup. C'est une autre forme de dialogue, vraiment carrément avec l'image, mais dans l'esprit thérapeutique. Là, c'était une expérience très particulière.
Et justement, dans le fond, dans l'album lui-même, donc il y a les éléments qui sont plus récits, contés, dialogués, mais il y a aussi justement des illustrations métaphoriques de ces sentiments-là. On va dans d'autres éléments. Donc, quand je parlais tantôt d'une courte pointe qui se forme, mais dans le fond, il y a des éléments comme ça aussi qui viennent s'ajouter, qui, j'imagine, nous offrent une autre dynamique de relation avec ce que tu nous proposes, une pause dans le récit, un cadre plus émotif, je pense par exemple aux deux, trois planches où tu as une personne qui pleure jusqu'à faire un océan, puis l'océan finit par emporter les gens qui essayaient de venir vers cette personne-là. Ça devient des images qui sont très fortes aussi, qui viennent apporter à ce qui se passe avant, après, puis à l'ensemble émotif de symptômes au bout du compte.
Ouais, tu as un personnage aussi à un moment donné qui console quelqu'un d'autre, puis qui se transforme en oiseau en faisant ça. Oui. Oui, ben pour moi, la bande dessinée, c'est tellement merveilleux, entre autres pour ça, t'sais, pour explorer ce qui échappe au langage, et ce qui échappe des fois aussi à l'image, en combinant les deux, tu arrives à tomber dans un autre monde. T'sais. J'ai une amie qui parlait de rêve éveillé. À un moment donné, tu peux commencer à jouer avec ces aspects-là, puis vraiment pouvoir entrer dans d'autres univers. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment... Ben, j'aime toutes les sortes de bandes dessinées, là, mais tu sais, cet aspect-là, je le trouve vraiment super le fun. Tu sais. Ouais, ça permet vraiment d'aller ailleurs, d'explorer vraiment. Là, je vais juste le répéter, là, mais d'autres univers. Je trouve ça très agréable.
Oui, puis j'imagine qu'en termes de création aussi, mais ça t'évite d'être toujours un peu dans le même pattern de travail. Donc, tu peux aller vers différents éléments selon, j'imagine, l'émotion ou la dynamique dans laquelle tu te retrouves au moment où tu t'installes pour créer, dans le fond, pour avancer.
Ben oui, tout à fait. Ça permet, moi, d'avoir des pauses puis de changer de mode. Puis ça permet aussi au lecteur ou à la lectrice d'avoir des pauses dans la lecture puis d'ouvrir des portes différentes.
Et à travers tout ça, il y a aussi, si on parle des segments puis du rythme du récit, il y a les plantes. Je les mentionnais tantôt, en fait, le vivant qui est autour de nous, mais les plantes sont quand même très présentes. Mm. J'imagine que c'est un peu dans l'idée aussi de, si on parle de donner de l'amour, de se donner de l'amour dans les relations un peu avec les autres, de la bienveillance et le reste, ben, les plantes, c'est la représentation physique de si on s'en occupe pas, puis ils vont s'étioler puis disparaître tranquillement. Donc, il y a un peu de ça. J'imagine qu'il y a peut-être autre chose aussi derrière cette présence importante-là.
Je pense qu'il y a de ça. Tu sais, les plantes aussi, on voit qu'elles réfléchissent à un moment donné, puis qu'elles se demandent où est-ce qu'elles vont se faire planter, puis tu sais, si elles se demandent si elles sont en bonne main. C'est pas une idée qui est née d'une réflexion concrète. T'sais. Je me suis pas dit comment on pourrait faire pour illustrer que notre environnement est important, mais je pense que c'est un commentaire sur on voit des oiseaux à un moment donné, essayer de voir qu'on est aussi important que les plantes. Là, puis évidemment, là, avec l'urgence climatique puis les crises qui s'en viennent, on n'a pas le luxe de ne pas prendre soin des plantes. C'est une phrase qui n'a pas de sens, là, mais il faut chérir tout ce qui existe, tout ce qui est vivant. En tout cas, il me semble qu'on est rendu là.
Ça devient révélateur aussi de l'état d'esprit.
Pardon?
Ça peut être révélateur de l'état d'esprit de ceux qui côtoient les plantes aussi dans notre environnement. Dans le fond, c'est représentatif de l'état de notre environnement intérieur aussi.
Tu sais, ça me fait penser, je viens juste de me rappeler, dans une des toutes premières versions, il y avait aussi un groupe de réhabilitation d'horticulture. T'sais. Puis je me disais, mettons, quelqu'un qui est super violent, tu le fais prendre soin d'une plante, que ça doit lui faire du bien. Fait qu'il y avait ça, il y avait Mireille qui côtoyait, genre un tueur en série qui côtoyait quelqu'un qui avait fait un vol à l'étalage. Des... Puis c'était toute une gang de gens qui se ramassaient à prendre soin des plantes. J'avais complètement oublié ça. Mais ouais, c'est pour amener un petit peu de douceur, je pense.
Oui, puis en fait, j'imagine, sur l'idée de l'isolement, puis si on revient à la solitude, dans le fond, bien, être isolé, tu l'as dit, ça a un impact sur la santé, mais l'isolement, c'est pas juste dans les relations interpersonnelles, c'est avec des animaux domestiques, c'est avec les plantes, c'est avec le contact avec le vivant, ouais. Et on se rend compte, j'imagine aussi, que dans certains contextes, il y a des gens qui peuvent traverser la vie en étant complètement déconnectés de ce vivant-là parce qu'ils sont dans une situation urbaine, parce qu'il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de gens autour d'eux, fait que ça vient exacerber encore plus, dans le fond, les mots qui sont associés à la solitude.
Ben oui, tout à fait. Ça, c'est très triste. Oui.
Et à travers tout ça, dans le fond, on revient un peu à l'agencement, là, mais c'est vraiment, dans le fond, je trouve que j'imagine qu'il va y avoir un défi d'équilibre. On part donc de différents éléments, différentes choses comme ça. À quel moment on se dit, avec l'accord de l'éditeur, j'imagine aussi, mais où on se dit, ben OK, là, c'est l'équilibre qui me convient, ou est-ce qu'à l'inverse, à un moment donné, il y a juste un lâcher-prise qu'il faut avoir en disant, ben je pense qu'on en est, on est arrivé à quelque chose, parce que c'est, j'imagine, des équilibres qui peuvent constamment aussi être perfectibles selon les humeurs du moment.
Ben oui, puis il y a je ne sais pas combien de pages que j'ai enlevées du livre. T'sais, j'ai un dossier rejeté là, t'sais, avec, je ne sais pas, peut-être 200 pages ou 150 pages esquissées déjà là, quand on a décidé d'enlever, qu'il n'y avait pas leur place, justement que ça nuisait à l'équilibre. Des fois, tu ne veux pas trop souligner en rouge non plus, tu ne peux pas... Donc, ouais, mais tu sais, c'est un moment où tu dis, OK, c'est beau, le livre est là, tout est là, je veux pas rien rajouter de plus. Ouais.
Et en terminant, Catherine, j'ai l'impression qu'il y a une grande bienveillance qui sort de symptômes. En fait, dans le trait, je sais pas, il y a une ambiance qui est bienveillante qui en ressort un peu aussi. Est-ce que c'est un peu... Justement, on ouvre la discussion, on partage une réflexion sur des thématiques qui ne sont pas nécessairement faciles, qui ne sont pas nécessairement si souvent abordées, la solitude, ses impacts, ses symptômes et le reste. Donc, dans le fond, j'imagine que de facto, tu voulais nous entraîner dans une ambiance un peu plus réconfortante? Ou...
Peut-être que je ne voulais pas autant entraîner les gens que moi en créer une... Pour moi, là, tu sais, parce que quand tu fais une bande dessinée, tu es tellement dans ta bulle, c'est tellement long à faire une BD, là, tu sais, que peut-être que j'ai dessiné quelque chose dont j'avais besoin, tu sais, un environnement qui était doux. En plus, là, on est en train, j'espère, de sortir de cette pandémie qui était comme tellement intense, puis il y a tellement, là, tout le monde le dit, là, mais tu sais, tellement de polarisation un peu partout, tellement d'insultes. Je trouve qu'il y a beaucoup de dureté, tu sais, fait que je pense que moi, j'avais envie d'avoir mon petit monde de plantes puis de douceur, puisque j'ai passé deux ans à faire le livre. Donc, je pense que j'en avais besoin.
On invite les gens à le découvrir, ce livre. Je le rappelle, ça s'appelle « Symptômes ». C'est de Catherine Oslo. C'est disponible du côté des éditions Pow Pow. Catherine, merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie.
Toujours dans le cadre de la vie en BD, c'est maintenant le moment du mois où l'on retrouve Stéphane Gravel pour son mois en BD. Stéphane, bonjour.
Bonjour, bonjour. Malgré tout le temps, un petit mois quand même. Ben quoi, un petit mois en nombre, mais un gros mois en page.
Oui, puis en fait, je pense que tu as comme une pléthore d'autres lectures que tu as faites aussi dans d'autres contextes.
Et oui,
mais tu en
oui,
as choisi trois dont tu avais envie de parler de manière plus particulière, donc ce mois-ci. Et autant des trucs un peu plus récents, autant des trucs dans lesquels tu es retombé, puis que tu t'es rappelé à quel point tu avais apprécié cet album-là aussi.
Absolument. J'ai exemple, je suis tombé sur Super Groom de Velman et Johan chez Dupuis. C'est une aventure de Spirou, si on veut, là. Mais moi, je n'avais pas lu ça quand il est sorti, le tome 1, parce que je n'étais pas attiré par cette BD-là. Mais cette année, on avait parlé un peu que de mon désir de revenir avec des trucs un petit peu plus classiques. Exemple, j'ai lu le dernier Largo Winch, qui est une bonne BD, qui fonctionne très bien. J'ai lu aussi le dernier Torgal, qui est encore une fois une bonne BD, qui fonctionne. Mais c'est souvent ces BD-là, on n'en parle pas parce que j'ai toujours l'impression que la loi de la série fait son travail. C'est-à-dire que c'est des bandes dessinées qui n'ont pas nécessairement besoin d'être parlées parce que on les connaît, on connaît les séries depuis longtemps. Ou exemple, Largo Winch, on est rendu à quoi? On est rendu à une vingaine de tomes, peut-être. Donc,
j'imagine que la question est toujours de voir est-ce que le tome continue sur une bonne lancée ou amène un peu la série à des endroits un peu moins intéressants. Mais effectivement, comme tu dis, à un moment donné, les lecteurs qui affectionnent cet univers-là vont probablement avoir le réflexe de vouloir poursuivre aussi.
Exactement. Puis ça reste un Largo Winch. C'est-à-dire que le pire Largo Winch va toujours rester intéressant parce qu'il est inclus dans une série qui, elle, a eu des périodes qui ont été intéressantes et les personnages, on les connaît, on veut les voir évoluer. Donc, on accepte un peu qu'il y ait des... Un peu comme dans les séries télé, on accepte qu'il y ait des périodes un peu tampons, si on veut, où on se demande, où on se dit, bon, la BD n'est pas si extraordinaire que ça, mais dans la série, elle fonctionne très bien. Donc, si on poursuit dans cette lignée-là, exemple, Spirou et Fantasio est une série qui existe depuis longtemps. On essaie de renouveler le genre à l'intérieur de la série, on renouvelle les auteurs. Contrairement à Tintin, par exemple, où la série s'est terminée avec la création d'Hergé, Spirou, comme Blake et Mortimer, la série se poursuit avec d'autres auteurs. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant en mettant la main sur Super Groom, le tome 1, et c'est sûr que je vais lire le tome 2, c'est que là, dans la BD elle-même, on revoit le personnage et on revoit la série et on se demande comment on peut redéfinir ce personnage-là. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que il y a toujours eu une espèce de mi-chemin entre fiction et réalité dans le personnage de Spirou, c'est-à-dire que son monde étant lié aux éditions Dupuis et au journal, il y a comme un petit côté fiction-réalité.
Oui, puis même dans les interprétations, parce qu'autant il y a eu Émile Bravo qui l'a amené carrément dans la Deuxième Guerre mondiale dans un contexte historique très fort, autant on a eu des trucs carrément relatifs à la science-fiction qui l'ont amené aussi dans d'autres univers. Donc, il y a une maniabilité, je trouve, dans Spirou qui n'est pas déplaisante.
Exactement. Et là, on veut redéfinir le personnage. Le personnage doit se redéfinir lui-même parce qu'il ne fonctionne plus. Il n'y a plus personne qui le connaît. On ne connaît que les super-héros. On ne connaît plus Spirou. Les jeunes ne connaissent pas Spirou. Puis c'est intéressant ce que tu dis là en parlant d'Émile Bravo, exemple, parce que même dans cette BD-là, on en parle de ça. On se dit, ah, ben, y a un auteur qui est en train de faire telle affaire avec le personnage de Spirou, qui l'amène dans la Deuxième Guerre mondiale. Tatata. Donc, il y a une espèce de mélange. Et là, partir d'un fantasme du comte de Champignac, Spirou décide de vêtir un habit de super groom pour faire une espèce de farce, si on veut, et de renouveler le personnage. Et là, il est pris au jeu dans son propre personnage. Et là, c'est le mélange fiction-réalité avec le super groom, avec Spirou qui ne veut pas le faire, quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement riche au niveau scénarisation. J'ai été très surpris de cette tournure-là et de toutes les techniques scénaristiques que les auteurs ont amenées pour essayer de créer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si avec le public, ça va marcher. Je ne sais pas à quel niveau un nouveau public va adhérer au personnage de Super Groom. Je ne sais pas non plus à qui elle s'adresse, cette BD-là. Est-ce qu'elle s'adresse à moi, qui est un vieux lecteur des Spirou et Fantasio de l'époque de Franquin et qui est content de revoir le personnage d'une autre façon? Parce que souvent, on ne se le cachera pas, ma génération de lecteurs, c'est, en tout cas, pour moi, c'est l'école Dupuis et c'est Franquin, c'est Spirou et Fantasio, c'est Gaston Lagaffe. Et d'un autre côté, c'est DC Comics, c'est Batman et c'est tout cet univers-là aussi. Et là, ben, on mélange un peu les genres en les amenant comme ça. Donc, on me fait plaisir automatiquement. Est-ce qu'on va faire plaisir aux nouveaux lecteurs? Je le sais pas, mais je trouve que c'est une BD à découvrir et Je trouve que c'est une BD qui est quand même un peu passée sous le tapis, là. On n'a pas trop vu, on n'a pas trop entendu parler de cette bande dessinée-là, et on a oublié, je pense aussi, les grands talents de scénariste de Veltman qui a fait cette BD-là. Là. C'est rare qu'il touche à quelque chose qui est un échec. Vraiment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé Raymond. Je ne sais pas si toi, tu l'as lu, mais
j'ai pas eu l'occasion de la lire, mais dans les relectures ou les réimaginations de Spirou, il y a eu des beaux moments. Je trouve des belles BD. Alors, ça serait peut-être à mettre, selon toi, donc dans la pile, justement, quand on s'amuse un peu à découvrir ce qui était proposé puis réinventé dans l'univers de Spirou, ben, c'est peut-être un des éléments qu'on
ne faudrait
pas oublier.
C'est dans la pile des BD plaisantes. C'est-à-dire, c'est pas une BD pour se casser la tête, c'est pas une BD pour aller dans l'espèce de ce qu'on s'attend parfois de la BD où on revoit vraiment le genre. On est loin de ce qu'Émile Bravo a fait, par exemple. Émile Bravo fait une BD qui est vraiment solide, songée, où le personnage est redéfini, on retombe dans un nouveau Spirou. C'est un peu le Frank Miller de Spirou, si on veut. Là. Il redéfinit les paramètres du personnage, tandis que là, on est plus dans le fantasme, dans l'éclatement, dans le plaisir et dans la folie. Donc, c'est très, très, très différent entre les deux.
Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que les deux approches cadrent avec le personnage.
Approches cadrent et sont contemporaines. C'est-à-dire que ces BD-là sortent en même temps. Là. Deux séries qui sont en parallèle. C'est bravo, vraiment bravo.
Alors ça, c'est Super Groom, donc le tome 1, c'est justifié malgré lui. Et on passe maintenant à Frédéric Peters et Oleg chez Atraville.
Une autre bande dessinée où l'auteur se remet en question. Mais bon, Frédéric Peters est un auteur qui est très reconnu en bande dessinée. J'aime pas utiliser le terme roman graphique, parce que ça reste une bande dessinée. C'est pas parce qu'elle a plus de 48 pages qu'elle a une autre dimension qu'une BD qui sort 10 volumes en 48 pages, mais c'est quelqu'un qui a une approche plutôt... Non, mais j'allais dire plutôt documentaire, parce que je pense à Pilule Bleue, par exemple, où il y avait vraiment une approche documentaire, mais avec d'autres bandes dessinées, il est quand même dans l'univers créatif et dans l'univers de fiction. Mais il fait lui aussi, je trouve, des scénarios qui sont très solides, et il a aussi un dessin qui est remarquable, il y a un dessin qui est à la fois léger et précis. Et ça, moi, j'apprécie beaucoup le dessin de Frédéric Peters. Ici, avec Oleg, c'est l'histoire d'un personnage qui est en quête d'inspiration pour faire une nouvelle bande dessinée. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on voit, mais de plus en plus dans l'univers de la bande dessinée. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement contemporain où on sent le piétinement de la création, on sent le film dans le film, on sent la BD dans la BD, on sent le questionnement, parce qu'il y a tellement de choses qui ont été faites, il y a tellement que là, on est dans un... Est-ce qu'on est dans un trou créatif au niveau des auteurs de BD? En tout cas, je trouve qu'on est dans un trou créatif au niveau de ce qu'on appelle la docu-fiction, c'est-à-dire où les personnages se mettent en scène et ils évoluent à l'intérieur de leur propre bande dessinée. Puis j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que j'en parle de cette BD-là, même si ce n'est pas elle, où tu vois un auteur qui est en questionnement avec son éditeur et qui se demande qu'est-ce qu'il pourrait faire comme un nouvel album, qu'il ne trouve pas l'inspiration pour faire son livre. Et à fin de compte, le livre qui en sort est un peu... la recherche ou les états d'âme d'un auteur qui n'a pas réussi à faire un livre et ce qui en fait un livre en bout de ligne. Bon, c'est pas toujours réussi, ces formules-là, mais ça me fait penser un peu au film Journal intime de Nanni Moretti, où le cinéaste se promène à travers les rues de Rome en cherchant inspiration pour pouvoir raconter son prochain film. Il part de l'idée de vouloir faire un documentaire sur l'Italie, ce qui n'a pas de sens, pour, en fin de compte, faire un film sur quelqu'un qui ne fera pas de film. Et là, on fait une BD sur quelqu'un qui ne fera pas de BD. C'est pas inintéressant parce que c'est Frédéric Peters et parce que son questionnement reste un questionnement qui va, à certains moments, dans une certaine profondeur. C'est-à-dire que c'est toute sa réflexion sur l'idée de qu'est-ce qu'il va faire tombe dans un côté très personnel et très angoissé de l'idée qu'il n'y a pas d'idée et de son attachement aux choses du passé aussi. On sent que c'est un personnage qui aime les vieux films, aime la vieille musique, essaie d'apprendre à sa fille les vieilles choses. Et c'est tout son questionnement par rapport à ça. C'est une BD qui, si je me souviens bien, a été dans la liste des nominations de BD à Angoulême. Et je pense que c'est parce que c'est Frédéric Peters qui l'a fait, parce que, comme je te disais précédemment, j'ai l'impression que j'ai déjà lu cette BD-là.
Mais donc, ça on reste... part avec l'idée qu'on a quelque chose qui commence peut-être à être un peu galvaudé, mais un bon auteur peut réussir avec un concept du genre à faire quelque chose qui est intéressant, qui est stimulant, autant que prise avec une plume qui est peut-être un peu plus approximative, ben ça peut donner quelque chose de peut-être un peu plus galvaudé, malheureusement. Ben, et justement, par le talent de Peters, mais ce que tu me dis, c'est regarder un leg arrive à se distinguer dans quelque chose qui s'insère dans une tangente assez large d'autofiction et de mise en scène de la création.
Mais tant qu'on en choisir un dans ces séries-là, là, c'est probablement celle-là que j'irai chercher. Parce qu'il y a des moments où... On entre vraiment dans une dimension qui est une réflexion du personnage qui est intéressante. Puis son dessin est tellement efficace. Son dessin est tellement beau qu'on se laisse charmer aussi. Il y a une part importante du dessin dans la bande dessinée. On focalise beaucoup sur les scénarios, on focalise beaucoup sur le fond. Mais pour moi, la forme est parfois aussi importante. Autant par moment, la forme me rebute et je passe par-dessus la forme pour pouvoir aller lire quelque chose qui va avoir un fond qui est extraordinaire. Et parfois, je vais être attiré par une forme qui, malheureusement, va dissimuler un fond qui n'est pas du tout intéressant. Donc, il y a toute une dimension au niveau de la bande dessinée que je trouve intéressant, c'est le mot bande dessinée ou récit illustré, il est là. Et à quelque part, c'est plus puissant qu'au cinéma parce que le cinéma a quelque chose de classique en général dans la mise en forme, dans le montage de tout ça. Il n'y a pas aussi de liberté, quoi qu'on le voit de plus en plus dans le cinéma avec les effets spéciaux ou les cinémas d'animation et tout ça, mais la liberté du dessin, le trait de l'auteur, il y a un côté gestuel qu'on voit dans ça et je trouve que Peters réussit à bien nous amener dans des dimensions par son trait et par son trait qui est parfois plus rigide, parfois plus souple, parfois il rentre dans son imaginaire et tu sens le trait qui s'assouplit. Je trouve qu'il a réussi à faire quelque chose qui est extrêmement intéressant à ce niveau-là, ce qui fait que on embarque un peu mieux dans cette BD-là qu'on a pu embarquer dans d'autres. C'est une très belle BD, même si je dois avouer que cet homme-là, j'en ai un peu ras-le-pompon. Je suis un petit peu tanné du « je me moi » de l'auteur de bande dessinée. Mais juste avoir le titre, Oleg, c'est intéressant parce qu'il dit déjà que sa BD est sur l'ego, qui est un peu un anagramme de Oleg, et on sent que vraiment, il n'a pas peur de tourner alentour de son nombril et que c'est son nombril le thème de cette histoire-là. Donc, c'est pas fait de façon sournoise, là. C'est franc, c'est moi, c'est mes problèmes avec moi-même, mes problèmes avec mon ego, et mon ego qui est rendu à un certain niveau, c'est-à-dire que j'ai été bon, il faut que je reste bon, qu'est-ce que je fais maintenant pour être bon? Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant.
Alors, si ça vous titille, donc Oleg de Frédéric Peters chez Atrabile. Et Stéphane, on passe au dernier titre de ton trio de février, appelons-le comme ça. Alors là, et je me rappelle quand tu m'as parlé de cette BD-là que je n'ai pas encore eu le temps de lire. En fait, ça va se faire incessamment. Mais c'est de ton côté, dans tes gros, gros coups de cœur là, des sorties 2021.
T'as pas le choix, il faut que tu lis ça. C'est la BD Monstre de Barry Windsor-Smith. Je ne sais pas comment parler de cette BD-là, tellement elle est mystérieuse, tellement elle est profonde, tellement elle est troublante en même temps. En tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça, probablement que d'autres vont pouvoir le percevoir autrement. L'angoisse que Frédéric Peters a à faire une BD et qu'il met en BD, Winsor Smith l'a vécu et en a fait une BD. C'est une BD qui lui a pris des dizaines d'années à faire. C'est volumineux, c'est 400 pages. C'est un auteur qu'on connaît peu, j'oserais dire qu'on connaît mais qu'on connaît peu. C'est un homme mystérieux qui ne donne pas beaucoup d'entrevues, qui n'est pas très vedette en bande dessinée. Il a fait beaucoup, c'est un auteur américain qui a dessiné beaucoup de BD américaines. Il a fait les Conan le barbare, exemple. C'est quelqu'un qui a un dessin plutôt réaliste, mais touffu, assez plein, mais qui raconte, je t'en montre un peu, même si personne ne voit, malheureusement. C'est quelqu'un qui a un dessin qui est fascinant. Là. Il y a un travail qui est fascinant là-dedans. Je veux dire, moi, je suis toujours, à un moment donné, je deviens omnibulé par le nombre de traits que ce personnage-là a fait, le nombre d'heures qu'il a été assis à une table à dessin pour faire ça. Et je veux dire, les capsulites, les entorses qu'il a dû faire, ça n'a pas de bon sens, là. C'est un travail de fou. Et puis, lui, il avait proposé, la petite histoire dit qu'il avait proposé un jour de faire le personnage de Hulk et de revoir Hulk, un peu comme Miller avait revu les Batman. Encore une fois, on revient avec la redéfinition d'un personnage. Il voulait rentrer de façon plus psychologique dans ce personnage-là, essayer de trouver qui il est vraiment. Et les éditions ont refusé son projet. En parallèle, il s'est mis à faire Monstre. Monstre est l'histoire un peu, entre guillemets, de Hulk. C'est un personnage qui est transformé par des tests militaires pour pouvoir en faire un super soldat. Mais c'est tellement plus fort que ça, c'est tellement plus intéressant. C'est-à-dire que toute l'histoire qu'il raconte est une histoire, si on veut, de science-fiction ou de super-héros, si on veut, le classique là, du personnage dit standard, de qui on veut faire un super personnage, sur qui on rate un peu notre coup, qu'il devient soit plus super ou plus, en tout cas, plus différent, il devient une forme de mutant. Un grand classique de chez DC, de chez Marvel, de la BD américaine. Mais là, lui, il met en contexte tout le monde, le monde autour de ce personnage-là, sa famille, d'où il vient, pourquoi on a choisi ce personnage-là qui a toujours été un repoussé, qui a toujours été un exclu et qu'il devient un monstre et comment maintenant il est encore plus repoussant et comment on va de plus en plus l'exclure et les personnes alentour de lui qui ont pris les décisions pour en faire un monstre, mais qu'il regrette qu'il soit un monstre parce qu'il ne savait pas jusqu'où l'expérience allait aller. Donc, il y a toute cette dimension sociologique-là et toute cette dimension de choix pour pouvoir transformer quelque chose en autre chose. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement fort et extrêmement intéressant, surtout qu'aujourd'hui, on est là. On joue dans les codes génétiques, on joue dans les OGM en agriculture, on joue avec les ciseaux moléculaires CRISPR sur les changements pour pouvoir accélérer des dites mutations qui sont naturelles. On se le dit, les mutations sont naturelles dans la vie. L'être humain a évolué d'hier à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on essaie de faire ces changements-là en quelques temps, en intérieur d'une vie d'un chercheur. Et ça m'a touché énormément et j'ai trouvé ça très, très, très fort.
C'est quelque chose à découvrir absolument, dans le fond. De ce que j'en comprends, totalement. Stéphane, c'est un must.
Non, c'est un must. C'est autant La Bombe était pour moi une œuvre majeure de la bande dessinée contemporaine. Monstre est pour moi dans cette même lignée-là. Il n'y a pas de doute. Là. C'est à moins que je sois fou.
Alors, très, très forte recommandation de Stéphane Gravel, donc pour Monstre, je le rappelle, de Barry Windsor Smith. Et Stéphane, nous, on se revoit en mars pour ton prochain mois en BD.
Super! À bientôt!
À bientôt!
Bye!
On va prendre quelques instants pour parler bande dessinée, quelques titres dont j'avais envie de vous jaser, de mentionner, lecture récente de mon côté, notamment, ben, tiens, Alerte 5, le dernier Max de Radiguès, donc qui est sorti du côté de Casterman. Donc, un album qui nous amène techniquement dans l'espace. Je dis techniquement parce que, mais je ne veux pas en révéler, mais pour moi, c'est un peu un élément de punch qui est arrivé en cours de route, qui a changé un peu ma lecture et ma compréhension de ce qui est en train de se passer. J'ai trouvé ça intéressant, mais je ne rentrerai pas vers ce renversement-là. Alors, disons-le très simplement, donc on est dans l'espace, on est sur Mars, donc une station spatiale qui est installée là avec un groupe de gens qui mènent différentes expérimentations pour voir l'impact de la vie sur Mars. Et en parallèle, eh bien, il y a aussi une dynamique qu'on suit sur la station spatiale internationale. Une dynamique, en fait, dans les deux cas, des missions qui seront perturbées par une alerte qui a été lancée. Donc, il y a des terroristes qui ont mené des actions qui potentiellement pourraient être ciblées vers certaines missions spatiales. Il y a explosion d'une fusée à destination de la Station spatiale internationale qui explose dès l'ouverture de ce récit. Et donc, on se retrouve en état d'alerte. Et les stations sont un peu condamnées, laissées à leurs propres moyens pour une durée qui n'est pas nécessairement déterminée. Et là, ben, on va voir dans les deux cas, dans le fond, diverses réactions à cette dynamique-là où les missions sont mises sur pause, où les personnes qui sont en situation d'isolement, soit en groupe ou soit seules dans le cas de la Station spatiale internationale, eh bien, donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite, comment ils vont réagir à tout ça et comment, évidemment, cette situation-là va aussi se dénouer. Donc, c'est intéressant. Et on voit évidemment différents exemples en fonction des personnalités de chacun, différents types de réactions face à cette fin temporaire sur une temporalité dont on ne sait pas exactement la durée. Évidemment, en isolement, il va y avoir aussi d'autres situations qui vont émerger. Donc, j'ai trouvé que l'esprit général de l'album était intéressant. Ensuite, ben, selon l'évolution, après ça, ça dépendra de chacun là, sur l'intérêt qu'on y portera. Mais les personnages sont bien campés. Les enjeux et dilemmes auxquels ils font face le sont également. À travers tout ça, ben, on nous offre une certaine forêt dans le fond, une dynamique potentielle qu'on pourrait retrouver dans ce type de mission-là. Alors, j'ai trouvé que le métissage était intéressant et que ça se laisse aussi agréablement lire avec justement certains rebondissements aussi qui vont émerger en cours de route, qui vont changer un peu la perspective qu'on a de ce récit-là. Alors ça, c'est intéressant, avec également quand même aussi des réflexions à caractère social sur les protocoles en lien avec justement ce qui se passe autour du terrorisme, sur l'impact que ça va avoir sur le plan des protocoles, sur l'équipage, etc., etc. Donc, il y a des belles portes qui sont ouvertes à travers tout ça et qui font que, pour moi, Alerte 5 est un album qui est agréable et pertinent à lire. Évidemment, si la question, est-ce que c'est un album qu'il faut lire absolument, j'irai pas jusque-là, mais si l'envie vous en prend, si ce type de récit-là vous tente, ben, je pense que vous allez trouver quelque chose d'intéressant avec cette proposition de Max de Radiguès. Donc, ça s'appelle Alerte 5, c'est chez Casterman. Et on fait le saut vers un autre album, et là, on est dans le social aussi, j'ai envie de dire, aussi une prise de position quand même assez importante à travers tout ça, qui montre peut-être un peu l'impact ou la possibilité que la BD peut avoir en termes justement de positionnement, en termes de choix politiques, de volonté politique aussi, d'une certaine façon, puisque ben, l'objectif de Hong Kong, Cité déchue, est clairement un album de revendication, si on peut dire, un album qui s'inscrit clairement dans une lutte politique. Il faut se reporter là, en 2019. Donc, il y a eu des manifestations monstres à Hong Kong, des millions de personnes qui sont sorties dans la rue pour dénoncer justement des choix politiques de la Chine au moment où Hong Kong était réintégré à l'intérieur de ce pays. Et évidemment, donc, une situation qui avait été dénoncée largement, une situation qui a amené des dérives également autour de différents sujets, de différentes réalités, et des éléments qui justement sont mis de l'avant dans cette prise de position à travers la BD que nous offre Quang Xing Lao, dont c'est le premier album d'ailleurs qui nous arrive là, vers l'externe, en fait, si je ne m'abuse. C'est du côté de Rue de l'Échiquier qu'on nous offre ça. Donc, un album qui est un peu en trois temps, j'aurais envie de dire, voire même un peu plus, dans la mesure où on introduit d'entrée de jeu donc la famille, le côté un peu autobiographique. Donc, 1998, on quitte le Japon en destination Chine, des débuts difficiles à l'école primaire où on se rend compte des différences, de l'impact des différences géographiques, des différences d'origine vers la perception qu'on va avoir, en fait, le fait d'être japonais dans la région initialement où on se retrouve en Chine, pour cette famille-là, amène les enfants à se faire passer à tabac de manière assez ouverte d'ailleurs, avec l'approbation des professeurs, parce que justement, il y a un passé colonialiste important, il y a un passé d'atrocités importantes entre les différents peuples. Et donc, éventuellement, bien, dans le fond, la famille va partir de cette région-là pour se diriger vers Hong Kong. Mais un Hong Kong qui est sur le point, justement, de se retrouver annexé par la Chine, donc après une dizaine d'années de vie dans cette ville-là. Et là, le récit, à ce moment-là, va prendre aussi un point de bascule vers autre chose, où on va tenter de voir, d'imaginer, dans le fond, les différents impacts et évolutions que Hong Kong pourra avoir, donc dans des récits, dans des courts récits ou des courts clins d'œil, dans le fond, où on a un aspect texte avec un aspect visuel qui l'accompagne. Dans le fond, où on va tenter de nous démontrer mais comment on peut passer d'un endroit, entre guillemets, presque paradisiaque, dans le fond, d'une cité qui fonctionnait vers une cité déchue, donc le Hong Kong du titre. Et tout ça va être bonifié aussi par des séquences plus dessinées, dans le fond, plus impressionnistes. Tout ça va être bonifié aussi par des analyses, par des éléments de discussion, par des extraits d'entrevues aussi avec Quang Xing Lao, qui va mettre aussi en perspective l'enjeu pour lui qu'a représenté la création de cet album-là, face à un régime qui, effectivement, peut soulever des questions sur le plan des droits humains et de l'impact qu'une prise de position forte peut avoir sur des enjeux de santé et de sécurité, disons-le comme ça. Donc, il y a aussi cette dimension-là qui est derrière cet album-là et qui peut-être nous force d'entrée de jeu comme lecteur à dépasser le cadre de lecture d'une bande dessinée traditionnelle, parce qu'on va vers quelque chose qui est plus large que ça, qui s'inscrit dans plus large que ça et qui nous rappelle justement la possibilité, la force de ce médium-là et de tout médium artistique, dans le fond, dans une logique de prise de position, dans l'intégration d'une mouvance sociale et le reste. Alors, il y a aussi ça qui doit nécessairement être considéré quand on parle d'Hong Kong cité déchue et qui, à mon sens, dans le fond, rend aussi une critique plus classique sur la qualité du scénario, sur la qualité du dessin, le reste, un peu caduque d'une certaine façon. Donc, on sait qu'on va lire un ouvrage, je veux dire, le dessin, il est très beau, mon scénario, ça pourrait être mieux à certains égards, mais ça fonctionne bien à d'autres. Mais je n'ai pas envie de le ramener simplement à cette dimension-là parce qu'il y a justement cette réalité sociale-là, parce qu'il y a cette volonté de témoigner, parce qu'il y a cette volonté d'anticiper et parce que l'auteur n'est pas un acteur extérieur de cette réalité-là, mais il est dans cette réalité-là. Il témoigne de la réalité, il témoigne de ses craintes, de ses perspectives, de ses réflexions et il se met à risque ce faisant également. Alors, je pense que pour ça, ça mérite minimalement qu'on le feuillette. Et si, effectivement, après ça, on a envie de plonger dans cette pensée-là, de voir comment l'auteur, au moment d'écrire ce livre-là, se sentait, percevait cette évolution-là pour sa ville, pour la ville qui l'avait adoptée, eh bien, ça devient, je pense, diablement intéressant comme proposition. Alors, c'est de Quang Xing Lao. Ça s'appelle Hong Kong, cité déchue. Et c'est chez Rue de l'Échiquier. Et puisqu'on est du côté asiatique, je terminerai peut-être avec un petit clin d'œil à un livre donc, dont je n'avais pas parlé, mais qui a eu d'ailleurs le prix de ACBD pour le volet asiatique, le prix Asie, le prix de la critique Asie, l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée.
Et ce prix-là avait été donné à Tsuhiro Maruo pour son Tomino La Maudite, en fait, un premier tome qui est arrivé pas si longtemps, je crois que c'est chez Casterman. Et ben, sincèrement, en fait, un récit qui est vraiment superbe d'un point de vue visuel, qui soulève aussi plusieurs questions, qui peut générer un peu d'inconfort aussi face à certains éléments, mais tout ça dans un contexte parfaitement, je trouve, maîtrisé d'un point de vue scénaristique et, je le redis, d'un point de vue visuel. Donc, essentiellement, donc, on se plonge d'entrée de jeu dans l'histoire de deux jumeaux, un frère et une sœur, qui naissent dans un, qui arrivent en fait dans un milieu, ils sont adoptés, ils sont pris en charge par une famille qui ne les aime pas, qui ne, n'a pas envie de leur donner des soins qui devraient être les leurs, que ce soit les nourrir correctement, que ce soit les éduquer. Donc, ils ne font rien de ça. Ils leur fournissent même à peine un espace où dormir. Donc, on sent qu'ils sont là plus pour être une certaine main-d'œuvre. Finalement, finissent par être considérés comme étant peut-être plus des problèmes qu'un avantage concret. La famille choisit de les vendre à quelqu'un d'autre. Finalement, ce quelqu'un d'autre s'avère être quelqu'un qui gère un cirque. Et par cirque, on entend plus la dynamique, là, on est dans une logique des années 30, alors je vais employer un mot des années 30, dans une logique entre guillemets « freak show », où on se retrouve donc dans une communauté de gens qui ont été mis de côté principalement par leur apparence physique et qui ont refondé un peu une certaine famille de fortune, donc ce soit Elise, la fille pieuvre à quatre bras et quatre jambes, Shin, une fillette poilue, Ken et Maza, qui sont des personnes de petite taille, Saburo, un shogun, un homme à deux têtes, et dans le fond, des êtres qui viennent, dans le fond, participer, si on peut dire, à cette nouvelle évolution des jumeaux, auxquels on donne désormais un nom de scène qui deviennent Katan et Tomino, et également d'autres personnes qui gravitent autour de ce cirque-là, avec des parts de mystère aussi, dans la mesure où on ne sait pas exactement ce qui va advenir de tout le monde, c'est pourquoi les enfants sont là, et tranquillement, les jumeaux trouvent un peu leur place dans ce groupe-là, parce que justement, il y a des éléments surnaturels, donc il y a un fantastique magique qui émerge un peu là-dedans, donc qui vient donner un cadre un peu à ces deux jumeaux-là, mais en parallèle, il y a aussi le spectre de la création justement d'être difforme, qui est ouverte aussi dans le contexte du livre, où on nous rappelle que dans le contexte de l'époque en Asie, eh bien, il y avait certaines personnes donc, qui, à des moments importants de la croissance d'enfants, les mettaient dans des contextes où ils allaient grandir en étant difformes. Donc, par exemple, forcer un enfant à être dans une boîte pendant quelques mois, quelques années pour que son corps se développe de façon X, forcer une jambe, limiter la croissance d'une jambe en le gardant dans un attel pour créer une autre difformité, donc tenter d'influer sur la croissance du crâne, donc pour fournir justement des attractions pour ces cirques-là. Évidemment, je parlais d'inconfort tantôt, mais c'est assez tragique de voir que cet élément-là a existé. Évidemment, de voir certains enfants dans le contexte du récit sujet à ce type de traitement-là. Et dans un contexte où Tomino, la maudite, est dans le fond rattaché aussi à un poème qui a été écrit par Yasuo Saijo en 1919, L'enfer de Tomino, donc un poème qui est sujet d'interprétations diverses, mais duquel justement le mangaka Maruo a été tiré, donc une certaine inspiration pour l'amener vers cette bande dessinée-là. Donc, quatre tomes au Japon, on a accès aux deux premiers, la première moitié du récit du côté francophone. Et je lance beaucoup d'éléments parce que, au bout du compte, il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans ce récit-là. On est un peu lancé dans cet univers-là, mais dans le fond, c'est bien maîtrisé, on ne s'y perd pas, on suit un peu les éléments, on est agréablement porté par les aspects visuels, par l'ambiance, par la dynamique, éventuellement par la séparation entre le frère et la sœur. Je veux pas trop en dire non plus, mais on comprend bien en lisant pourquoi cet ouvrage de Tsuhiro Maruo avait été choisi par les journalistes et critiques de la CBD dans ce prix Asie l'an dernier. Et je pense que vous verrez pourquoi c'est pas trop difficile d'être enthousiaste par rapport à ce récit-là et à la richesse de ce récit-là, je pense, quand on prend le temps de s'y attarder. Donc, si vous avez envie de vous lancer du côté manga, mais pourquoi pas Tomino la maudite. Donc, c'est, je le rappelle, donc de Suero Maruo et c'est du côté de Casterman. Alors voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. Je vous rappelle par ailleurs que l'ensemble des émissions sont disponibles en mode balado-diffusion. Donc, si vous avez envie d'aller faire un tour sur lavieenbd.com, eh bien, vous allez trouver l'ensemble des émissions presque au fil de nos 11 dernières saisons. Donc, beaucoup de matériel disponible si vous avez envie d'entendre parler plus autour de la bande dessinée. Et je vous rappelle également que La Vie en BD est sur Facebook et Instagram. Donc, vous pouvez aller nous suivre sur ces deux plateformes également. Donc, pour avoir quelques éléments d'actualité autour de la bande dessinée, tout particulièrement au Québec. Alors voilà pour ces deux petites mentions. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à la semaine prochaine. C'était Raymond Poirier au micro.